13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche et bon ramadan. Notre invité aujourd'hui, c'est Ali Habibi. Bonjour Ali.
Bonjour Philippe.
C'est votre premier Book Club. D'habitude, on a l'habitude de vous accueillir en tant que spécialiste dans l'émission. Et là, c'est votre premier livre. Ça s'appelle Le Célibat, Liberté et Souffrance. Un livre qui est en vente sur Amazon. Le célibat, c'est un sujet que vous portez depuis des années. Qu'est-ce qui finalement vous attire dans le célibat, Ali?
Bon, en fait, ce qui m'attire de base, ou m'intéresse de base, c'est tout ce qui est lié à la souffrance. Donc à partir du moment où des personnes sont en souffrance ou en difficulté, en règle générale, ça attire un peu mon attention. Et derrière, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux apporter ou amener qui pourrait aider et accompagner ces personnes-là. Et donc, dans le célibat, ce statut de célibat, en soi, il n'est pas... En soi, tout seul, il n'est pas problématique, mais il peut le devenir à partir du moment où la personne souffre de ce statut-là.
En quoi est-ce que la question du célibat nous concerne-t-elle tous?
Parce qu'on est tous, à un moment donné, célibataires. C'est-à-dire que ça concerne tous les humains. À un moment, quoi, vous êtes célibataire de base, en fait. Donc, c'est jusqu'à ce que vous deveniez, jusqu'à ce que vous mariez ou que vous soyez en couple, ben vous êtes célibataire. C'est votre identité, ça renvoie justement à votre personne, au fait que vous êtes avec vous-même de base. Et derrière, à l'invitation de pouvoir construire quelque chose.
En quoi est-ce
pour
que
pouvoir construire quelque chose, il faut sortir de ouais. Ce statut.
Mais non, parce que tout le monde en prend un petit peu pour son grade dans votre livre. La famille, les mosquées, les religieux, les voisins, enfin tout le monde. Ça veut dire que finalement, la société est très démissionnaire. Ouais. Elle est passée où, la vieille tante marieuse?
Elle a un peu disparu, tout simplement parce que le système ou la cellule familiale a changé. Cette tante-là marieuse qui était présente dans une cellule de vie autour d'une personne qui était constituée de 20, 30, 40 personnes, comme j'aime le dire souvent, et qui l'accompagne dans son éducation. Aujourd'hui, on est plus dans des familles nucléaires où vous avez le papa, la maman quand tout se passe bien, parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, vous avez qu'une seule personne. Voire un grand-parent ou un oncle ici ou là, mais ce qui réduit ce système qui était de 20, 30, 40 personnes à quelques personnes, à 4, 5 personnes. Et on demande à ces 4, 5 personnes de faire le travail de 30 personnes, ce qui est très compliqué. Donc vous voyez que cette tante marieuse, elle avait cette fonction. Comme l'oncle rigolo avec qui on pouvait déconner avait cette fonction de...
On appelait ça des entremetteuses avant, vous voyez.
Oui, ouais. Oui, oui.
Elle connaissait tout le monde dans la région, tous ceux qui étaient à marier. Elle était profileuse finalement.
Oui, c'est vrai. Et elle arrivait un peu à identifier, à essayer de faire matcher les personnes. Mais réellement, c'était réellement une de ses fonctions. C'était pas sa seule fonction, mais c'était une de ses fonctions principales. Donc, et c'est normal que ça disparaisse parce que la société tend justement vers ce système de famille nucléaire, vers cette dissolution un peu des familles. Quand je dis dissolution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de famille, mais elles sont séparées déjà géographiquement. Et puis, en termes de liens et de relations, elles sont aussi séparées. Il y a de moins en moins de rencontres, de moins en moins de repas. On préfère un peu être seul dans son coin ou seul avec sa petite cellule familiale. Ou alors, on préfère pas, mais on n'arrive pas à faire autrement. Parce que justement, les choses ont fait qu'on a pu déménager, aller à des dizaines, des centaines de kilomètres, voire même changer de ville ou de pays. Ce qui rend un peu les choses difficiles.
Est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui et ses outils de matching a-t-elle remplacé l'intelligence amoureuse?
Alors, en partie oui.
Ah oui, vous n'êtes pas négatif?
Non.
J'essaie
d'être...
Avec ces outils finalement, qui mettent en relation les gens en fonction des profils.
Mais je mets quand même des bémols, dans le sens où j'essaie d'éviter d'être binaire. Oui, d'être forcément contre parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou parce que c'est nouveau ou parce que ça vient remplacer quelque chose. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a ces outils-là qu'il n'y a plus la famille. Vous voyez, parce que souvent, on se dit que ces nouveaux intermédiaires numériques viennent remplacer quelque chose qui est plus naturel. Non, ces nouveaux intermédiaires numériques prennent une place qui est disponible et qui a été laissée, justement. Elle ne vient pas, elle n'a pas mis dehors ses tantes entremetteuses, elle n'a pas mis dehors le système familial, elle a pris la place que le système familial ou la société a laissée. Donc déjà, ça c'est la première réalité à remettre en place, ce n'est pas un ennemi. c'est un outil qu'il faut utiliser. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention et savoir comment l'utiliser, mais je ne suis pas, c'est vrai, totalement contre, parce que par expérience, j'ai vu que ça a aidé certaines personnes, et ça a bien aidé certaines personnes.
Ah, ça, c'est un discours qu'on n'entend pas souvent.
Donc, à partir de là, on est obligé de reconnaître que ça peut être utile, que ça peut fonctionner.
On parle des sites de rencontres, artificielle.
Ça peut aider certaines personnes. Après, tous les sites de rencontres ne sont pas forcément viables ou ne sont pas forcément très conseillés. En tout cas, moi, je ne les conseille pas tous. Mais vous avez quelques sites de rencontres qui ont quand même une éthique et qui mettent en place un système qui permet de préserver et de protéger chaque personne et de les aider vraiment et réellement à atteindre leur objectif. À partir de là, quand ces choses-là sont mises en place et que les personnes, justement, respectent ces conditions, il faut voir le site de rencontre comme un intermédiaire, comme les tantes l'étaient avant, comme les marieuses pouvaient l'être, comme les agences matrimoniales peuvent l'être, comme, je ne sais pas moi, un ami peut l'être.
Il y a un retour en grâce, d'une certaine façon, des agences matrimoniales et de leur savoir-faire spécifique. Hein.
Oui, mais vous voyez que ce retour en grâce, il vient du fait que, justement, les personnes qui ont testé les sites de rencontre...
C'est presque un parcours. Hein.
Voilà, ouais. Donc ça s'est mal passé un peu pour pas mal de personnes parce que n'étaient pas forcément si viables que ça, ces sites de rencontre-là. Et par ce biais-là, du fait de cette mauvaise expérience, les gens reviennent un peu au contact humain parce qu'ils ont un problème avec le virtuel, on va dire. Donc les personnes qui ont un souci avec le virtuel, ce que je peux totalement comprendre, ils vont plus s'orienter vers l'humain. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où on prend en considération que même la marieuse ou même l'agence matrimoniale est un intermédiaire, c'est un outil qu'on utilise. D'accord. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. Après, il y a une distinction à faire entre un peu la rencontre spontanée où on rencontre quelqu'un, puis après on apprend à connaître et on décide de se marier là. La différence, c'est qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus naturel parce que c'est spontané et c'est ce qu'on préfère en règle générale. Mais si on veut être un peu plus juste, même cette rencontre spontanée utilise des outils. Vous voyez, la rencontre que vous l'avez faite dans un contexte particulier, dans un cadre particulier, et tout ce système qui est mis en place est considéré comme un outil ou un intermédiaire qui permet la rencontre et qui permet derrière l'échange. Mais je ne suis pas en contre absolument tous les sites de rencontre. À partir du moment où le site a une éthique et qu'il met en place vraiment cette éthique et qu'il est vraiment là au service des personnes qui désirent se rencontrer, c'est un intermédiaire et un outil qui peut fonctionner et qui a déjà fonctionné pour de nombreuses personnes.
Alors, une des questions qu'on vous pose souvent, Ali, quand on connaît votre métier et ce que vous faites, c'est Ali, comment est-ce que je peux rencontrer la bonne personne? Oui. Qu'est-ce que vous répondez à cette très bonne question?
La première chose, la première réponse que je peux avoir, c'est que déjà dans la formulation, il y a un gros problème pour moi.
Ah bon?
Oui, c'est le « là ». Vous voyez, rencontrer la bonne personne, c'est d'office éliminatoire. C'est d'office éliminatoire. Pourquoi ? Parce que quand vous dites comment rencontrer la bonne personne, ça renvoie à l'idée qu'il n'y a déjà qu'une personne qui pourrait vous convenir. Donc ça réduit quand même les possibilités.
Ce que les gens pensent d'ailleurs.
Oui, mais c'est ce qui va. C'est une des raisons du célibat aussi. C'est une des raisons. Pourquoi ? Parce que certaines personnes sont dans cette croyance, consciemment ou non, qu'il y a une personne qui viendrait. Qui viendraient pouvoir leur convenir et répondre à leurs attentes et les compléter d'une certaine manière, et qu'il n'y a que cette personne qui pourrait le faire. Ça veut dire quoi ? Que quand vous avez des prétendants ou des prétendantes ou des possibilités de rencontre, vous êtes quand même dans une démarche de il n'y en a qu'un seul en fait, ou une seule qui pourrait convenir. Donc comment vous allez faire pour pouvoir choisir cette personne ? Comment vous pourriez faire pour être sûr que c'est la bonne personne ? C'est impossible. Un, déjà à savoir. Et de deux, le fait que ça renvoie à cette idée qu'il n'y a qu'une seule personne, ça renvoie à une idée qui est fausse. Vous voyez, il n'y a pas une bonne personne, il y a des bonnes personnes. Donc, ce n'est pas comment rencontrer la bonne personne, c'est comment rencontrer une personne qui pourrait me convenir, ou une bonne personne, éventuellement.
Une bonne personne serait plus correcte, on va dire.
Serait plus correcte, ou une bonne personne qui pourrait me convenir, si on veut rajouter, pour rassurer un peu ces personnes-là, de manière à ce qu'elles puissent ouvrir le champ des possibles, et qu'elles, vous voyez, cette position éliminatoire et même impossible à répondre, c'est-à-dire impossible de trouver, chercher une aiguille en fait, vous voyez, dans une botte de foin, c'est impossible. Donc on ne va pas chercher cette aiguille-là parce que ce n'est pas faisable, et vous allez éliminer plein de personnes qui pourraient convenir totalement, et là vous allez en gros un peu saboter les possibilités que vous pourriez avoir. Donc dans la formulation, il y a un problème qui renvoie en réalité à l'idée de l'âme sœur. Parce que cette idée de
Les gens disent toujours, voilà, j'aimerais trouver mon âme sœur.
Oui, et bon, après personnellement, je ne suis pas convaincu par cette croyance-là. d'âme sœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette croyance, elle a une origine qui vient du judaïsme.
Que vous expliquez très bien dans votre livre.
Un peu dans le livre, oui, qui vient du judaïsme et qui vient de l'idée. Et c'est une croyance. Donc ceux qui y croient, ils croient, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut juste que les gens se rendent compte que c'est une croyance qui est que Dieu aurait séparé l'âme en deux, en côté masculin et un côté féminin, pour les mettre justement dans les corps sur terre, et que ces deux âmes-là, si elles se rencontrent et qu'elles se marient, ça serait le mariage parfait pour elles. Déjà, dans cette croyance-là, il y a l'idée qu'elles peuvent se marier avec une autre personne, vous voyez, mais pour eux, ça sera moins bon, ou même si ça se passe bien, ça sera moins bien, et si ça se passe pas si bien que ça, ça risque de mal se passer, mais si elles rencontrent cette personne-là qui vient les compléter totalement, parce que c'était le bout manquant qui avait été séparé initialement, alors le mariage ne peut qu'être merveilleux et harmonieux. Mais vous voyez qu'on part quand même d'une croyance qui est que les âmes sont séparées, déjà la croyance aux âmes, et bon, pour les musulmans, il n'y a pas de souci là-dessus, mais que les âmes sont séparées pour être intégrées dans les corps et qu'elles doivent, dans l'idéal, se retrouver. Et je n'ai pas trouvé de traces dans la tradition islamique qui parle de ce type de croyance. Donc c'est pour ça que je ne suis pas favorable. Un, parce que ça rend déjà les choses très compliquées, là on le voit, je cherche l'âme sœur, donc la personne va rester célibataire. Vous voyez, en gros c'est ça, faut vraiment traduire ça, je cherche la bonne personne, très bien, tu vas rester tout seul en règle générale.
Après il y a un autre vocabulaire, il y a des personnes qui disent je cherche, soit je cherche mon double, soit je cherche ma moitié.
Oui, après c'est mon double, moi ça m'inquiéterait un peu, parce que si quelqu'un cherche son double, autant qu'il reste avec lui-même en fait.
Mais, ah mais il y a d'où le proverbe qui se
oui,
ressemble, s'assemble.
Oui, voyez, mais parce que ça les rassure et c'est des personnes qui sont dans une position où la différence les inquiète, le nouveau les inquiète. Le changement des habitudes leur fait peur et ils préfèrent être rassurés. Ça ne signifie pas que la personne qui est comme eux, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ça signifie en réalité qu'une personne qui n'est pas comme eux pourrait leur convenir, mais le risque est trop élevé. Et donc, elles vont préférer être avec quelqu'un qu'elles comprennent un peu parce que ça leur ressemble qu'avec une personne qui est différente. Et ceux qui cherchent leur moitié, ça renvoie encore à cette idée d'âme sœur, comme quoi je suis divisé et qu'il me manque un bout.
Sans alors qu'on sache précisément quelle est des deux la solution qui fonctionne la mieux, en termes de résultats et de longévité de couple.
Bah après, c'est vrai que ça dépend des profils, parce que quelqu'un qui est persuadé et qui est dans une position particulière et que ça lui convient, il trouve une personne qui lui ressemble, il peut très bien être content et heureux, et il n'y a pas de mal là-dessus. Mais je n'irai pas forcément dans cette idée de moitié, mais j'irai plus dans une idée de complémentarité. C'est-à-dire que nous sommes complets en soi, mais qu'on a justement des besoins, des manques, des attentes, des choses à offrir, des choses à donner, et de trouver la personne avec qui ça pourrait convenir.
Comme un pulse, d'ailleurs, c'est le pulse qu'on retrouve sur la couverture de votre livre, Ali Habibi. Le livre vient de sortir, Le célibat, liberté et souffrance. On en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est le premier Book Club d'Ali Habibi. J'hésite sur les horaires parce que j'ai pas l'habitude de vous recevoir à cette heure-là, Ali Habibi. Donc dimanche midi 13h, on parle de votre premier livre qui vient de sortir, Ali. Ça concerne le couple et finalement c'est vrai qu'on vous avait plus, vous nous aviez plus habitués à parler du couple que des célibataires. Donc voilà, c'est l'étape d'avant finalement.
Oui, mais en sachant que je parlais aussi des célibataires, mais c'est vrai que comme on me questionnait beaucoup plus sur les relations de couple. Les gens pensent que je ne reste focalisé que sur le couple, alors que je m'intéresse au couple, à la famille, au célibat, aux différentes souffrances psychiques des personnes, même seules. Donc il y a pas de souci. En plus, c'est lié parce que dans l'histoire du célibat, il y a l'histoire de la souffrance de la personne ou de son statut, mais du lien qu'elle peut avoir au niveau familial et au niveau de la société.
Votre livre s'appelle Le célibat, liberté et souffrance. Il est en vente sur Amazon, vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. J'aime bien, ça fait ce petit côté téléachat, ça vous ressemble tellement, Ali.
Oui.
Avec ce pulse et cette pièce manquante. Est-ce que l'augmentation du nombre de célibataires aujourd'hui, ça correspond à une crise du mariage ou ça n'a rien à voir?
Non, je ne pense pas. Certains le lient en disant voilà que c'est lié à une crise du mariage, mais je ne pense pas en réalité. Je pense que déjà c'est lié à la même chose qui pousse à la crise du mariage, mais c'est pas la conséquence de la crise du mariage. C'est-à-dire que la crise du mariage ou le célibat sont les deux des conséquences d'un individualisme en fait qui prend le dessus sur le reste, du fait de suivre ses passions, de faire ce qu'on veut, de faire comme on veut, d'avoir des conditions. Et de non négociable. de ne c'est-à-dire pas accepter
la frustration. On est responsable de son propre bonheur, en fait, dans ces cas-là, dans la crise de l'individualisme.
Mais même dans le mariage, on est responsable de son propre bonheur. Vous voyez, c'est l'idée reçue des gens qui pensent que pour être heureux, il faudrait que l'autre me rende heureux, et quand ça ne fonctionne pas, de rendre coupable l'autre de mon malheur. Alors que les couples qui fonctionnent sur du long terme et qui sont épanouis sont des couples ou sont des personnes qui étaient heureux ou heureuses avant de se marier.
C'est ce que vous dites, c'est que finalement le secret des gens les plus heureux, c'est que c'est des gens qui étaient déjà heureux avant.
Bien sûr, et qui en réalité dans le mariage vont choisir une personne qui va continuer à les accompagner dans l'évolution de leur bonheur. Mais c'est pas des personnes qui vont être l'étendard ou le sauveur ou celui qui va apporter le bonheur à l'autre ou qui va essayer de soigner la personne.
On n'est pas responsable du bonheur des autres.
Bah non, on n'est même pas responsable des autres. On est responsable de nous-mêmes. Après, à partir du moment où on rentre dans, qu'on crée un système familial, on prend plus de responsabilités. Là, on a une part de responsabilité dans la relation, voire même au niveau de la famille. Mais attendre que l'autre vous apporte ce que vous n'avez pas rend les choses compliquées et difficiles, parce que ce n'est pas sûr qu'il y arrive. Il y a même peu de chances qu'il y arrive. Et que le vrai secret, ou un des vrais secrets, c'est vraiment de travailler sur soi, d'être heureux seul. Et ça ne veut pas dire de rester seul, mais c'est de choisir une personne qui vous accompagne dans votre bonheur, tout simplement, et de ne pas mettre sur l'autre, sur ses épaules, un poids qu'il ne peut porter, et de créer des injustices en réalité. Mais donc oui, donc la crise le célibat ou la crise du mariage renvoie vraiment à cet individualisme, à cette frustration non acceptée des gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'accepte pas du tout d'être frustré, on ne sait pas comment faire pour gérer la frustration, mais en fait on n'a même pas envie de savoir comment faire, on n'a pas envie
non,
du tout d'être
on a envie
frustré.
D'assouvir son besoin tout de suite, surtout.
Et de rester seul et d'avoir ce qu'on veut, et le moment où on veut être en couple, on est en couple, on n'a plus envie, on ne l'est plus, et en gros c'est ça qui va expliquer c'est une des grandes raisons qui peut expliquer le célibat aujourd'hui ou même les crises au niveau du mariage.
Alors, il y a aussi, c'est des choses qu'on entend, c'est que les gens veulent d'abord réussir professionnellement avant de se poser là où nos parents peut-être se mettaient en couple plus tôt. Ils acceptaient cette partie où ils n'étaient pas très à l'aise dans la vie, hein, oui. où on se serrait la ceinture. C'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est en couple, on va à l'appartement tout de suite, une voiture tout de suite, on veut tout de suite finalement.
On veut briller, en fait on veut être à la fin dès le début. Et en voulant être à la fin dès le départ, en fait il n'y a pas de départ, tout simplement. Ce qui fait que le fait justement de vouloir de repousser, d'attendre indéfiniment, d'attendre la fin des études, d'attendre le fait d'avoir une situation plus... Alors avoir une situation, c'est normal, mais d'attendre que ce soit la condition pour pouvoir me marier, que ma situation soit suffisamment stable. Après, il faudrait la définir, parce que vous avez des personnes qui sont dans des situations qui peuvent être stables, même si c'est des situations qui ne sont pas terribles, mais qui sont stables, vous voyez, qui peuvent suffire. Mais non, c'est-à-dire, il faut que j'ai une maison, puis il faut que j'ai une voiture, puis il faut ceci, puis il faut cela, et puis il faut que je monte en grade, donc il faut que je m'investisse un peu plus au travail, ou il faut que j'ai tel diplôme.
Il faut que j'ai fait mes preuves, parce qu'après, ça sera trop tard.
Le temps passe, et de 25, on arrive à 30, 35, à 38 ans, 39 ans, 40 ans, puis on se rend compte que c'est un peu compliqué. Donc que ça devient compliqué après derrière.
Mais pourquoi ça devient compliqué? Pourquoi finalement on ne pourrait pas se marier de la même façon à tous les âges de la vie?
Mais ça c'est biologique. À partir du parce que vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas le même à 20 ans qu'à 40 ans. Mais parce que vous n'êtes pas le même, le contexte change. Parce que le contexte change, les comportements changent. On ne peut pas reprocher aux gens de changer leur comportement par rapport au contexte, parce que le contexte va imposer le changement de comportement, justement. Le comportement qu'on va avoir à 20 ans et les conditions qu'on peut avoir à 20 ans... Alors, les conditions, en avoir, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en avoir trop, ça peut poser problème. Ne pas, que ça ne soit pas flexible, négociable, vous voyez, ne pas être souple, ça peut poser problème. Et repousser les choses,
c'est
va
pas
aussi poser problème.
C'est
à 40 ans, vous pouvez vous marier même à 50 ans.
C'est pas lié au physique, parce que finalement...
Ça peut être lié au physique. Hein.
Parce que finalement, bon, à 20 ans, on est jeune, on est beau. À 40 ans, on est toujours aussi jeune et aussi beau. Mais bon, c'est plus exactement la même chose. Finalement, est-ce qu'on arrive à étudier quelle est la part du physique dans le nombre de croissants de célibataires?
En fait, ce qui se passe, c'est que le physique est important. Il va avoir son importance. Et il est vrai qu'on n'est pas attiré de la même manière ou de même personne à 20 ans et à 40 ans ou à 50 ans. Et en plus, si on est un garçon ou une fille, etc. Donc ça va avoir son importance. Mais on ne peut pas imposer aux gens d'avoir le même comportement à 40 ans que le comportement qu'on voudrait qu'ils aient quand ils, ou qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans. Le contexte, comme je viens de le dire, va imposer ce changement-là. Et que ça soit d'ordre physique, que ça soit au niveau du statut, que ça soit au niveau des désirs, que ça soit au niveau des besoins, qu'on peut avoir, les besoins tout simplement que vous avez à 20 ans, ce n'est pas les mêmes que ceux que vous avez à 40 ans. Vous n'êtes pas le même, vous n'êtes pas la même personne. L'évolution que vous avez eue va changer justement votre perception du monde et cette perception va aussi changer peut-être les besoins et les attentes que vous avez. Alors ça peut être naturel, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge, plus les besoins sont différents, les envies sont différentes, les possibilités sont différentes. On peut faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant, mais il y a certaines choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire à un certain âge. Donc quelqu'un qui a 40 ans ou qui a 50 ans peut toujours se marier. Ce n'est pas un souci.
Mais
il faut qu'il accepte ou il faut que cette personne accepte de pouvoir justement se marier par rapport au contexte qui est le sien. Et de ne pas
Ça veut dire qu'il faut que ses exigences changent, c'est ça que vous voulez dire ?
Alors, c'est pas forcément. Alors, ses exigences vont changer. Et si elle ne change pas, la personne va juste rester dans cette illusion ou bloquée dans son schéma à elle. Mais par la force des choses, ces conditions vont changer ou doivent changer. C'est ce qui est normal en réalité. On ne va pas demander à quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un même qui a 30 ans, on ne va même pas aller jusqu'à 40 ans. De 20 à 30 ans, vous allez avoir une évolution et des changements de perception. À 20 ans, je voulais pas la même chose que ce que je pouvais vouloir à 30 ans. Et aujourd'hui, à 35,
on peut physiquement
36,
toujours aimer la même chose.
Alors, on peut aimer la même chose, on peut être attiré par
voilà,
le même profil.
Voilà, parce que
oui, ça c'est
parce
vrai.
Parce qu'il peut y avoir aussi des attirances toujours sur les mêmes profils.
Mais certaines choses que je pouvais offrir à 20 ans, je peux ne plus les offrir à 40. Et certaines choses que je peux offrir à 40 ans, je ne pouvais pas les offrir à 20 ans. Le tout, en fait, c'est que ça puisse concorder. Que je puisse trouver la personne à qui pourrait répondre au maximum des besoins que je peux avoir et auxquels je peux offrir et répondre au maximum des besoins qu'elle peut avoir. Mais ça va dans les deux sens. Déjà, la plupart des gens vont regarder les choses que dans un sens, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Et vous voyez, ça renvoie encore à cette idée d'individualisme et d'égoïsme où on ne pense qu'à soi et l'autre est là limite comme un objet qui vient justement répondre aux attentes qu'on a et de ne pas penser à l'idée du partage, de pouvoir justement aussi savoir qu'est-ce qu'on peut offrir et qu'est-ce qu'on peut donner à l'autre. Et aussi, ça c'est juste une base en réalité, c'est pas l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble.
Ma question finalement à Alia Bibi, c'était est-ce que plus on attend dans le temps, est-ce qu'on a moins de chances de se marier ?
Oui. Oui. Et plus vous attendez, et moins vous avez de chances, et encore plus quand vous êtes une femme. Alors que ça plaise pas, c'est la réalité, hein, c'est pas moi qui choisis, vous voyez ? C'est pas une décision que
c'est
j'ai prise.
C'est le terrain.
Et ça a toujours été ainsi. C'est plus vous prenez de l'âge et moins vous avez de possibilités. Ou plus vous prenez de l'âge, et en fait, c'est pas que vous avez moins de possibilités, c'est que plus vous prenez de l'âge, moins vous pouvez imposer certaines conditions. Vous voyez, elle est là la différence. C'est-à-dire que les prétentions que vous pouvez avoir à 20 ans ne sont pas les mêmes que vous pourriez avoir à 20, à 40 ou à 50 ans. Mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est la vie qui est ainsi. On peut pas faire autrement. On peut essayer toujours de voir les choses autrement. On peut toujours avoir une ouverture d'esprit qui fait que, etc. Certaines exceptions penseront autrement et le vivront autrement. Mais la norme va aller dans ce sens-là.
Mais est-ce que dans l'éducation que les parents délivrent, Alia Bibi, aux enfants aujourd'hui, l'incitation à ce qu'ils se marient est toujours aussi présente ?
Je pense qu'elle l'est moins. Je pense qu'elle l'est moins justement.
Même si dans la communauté, on a quand même l'impression que la seule et unique question qui concerne les gens, c'est quand est-ce que tu te maries ?
Mais à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que c'est quand on arrive à un certain âge qu'on commence à poser cette question et qu'on commence à mettre une pression à l'enfant. Mais alors que d'antan, comme je vous le disais, on préparait les personnes, on en parlait tout à l'heure, mais on préparait les personnes à pouvoir se marier justement. Et on les préparait peut-être de manière indirecte à se marier très tôt. Aujourd'hui, on le fait encore un peu, mais beaucoup moins. Et surtout que, vous voyez, ce besoin de certaines personnes à terminer une carrière ou à avoir un statut ou à terminer des études, etc., ça ne vient pas de nulle part. À la base, ça vient de l'éducation que les parents leur ont donnée. Vous voyez, à la base.
Parce que les parents ont peut-être galéré quand ils se sont installés et que c'est peut-être ça qu'ils ont transmis à leurs enfants.
Bien sûr. Mais il y a des explications. Et c'est pas, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Mais vous prenez la génération d'il y a 20-30 ans, dans les années 80, le discours des parents, c'était il faut que tu réussisses et que tu ailles le plus loin possible dans les études, que tu aies un poste sécure et important pour que tu ne galères pas comme j'ai galéré, pour que tu puisses être en sécurité alors que moi j'ai été en insécurité. Et que tu puisses réussir ta vie. Le fait de focaliser sur cet objectif-là fait que tous les autres objectifs sont mis de côté et on se focalise là-dessus. Et puis, ça a donné cette idée maintenant de voilà, bah, il faut que je pense à moi, il faut que je me sécurise, etc. Alors que le message au fond n'était pas celui-ci. Le message au fond, c'est faut pas que tu galères comme j'ai galéré, mais il faut quand même que tu vives et que tu construises aussi. Et aujourd'hui, une des solutions que je propose, c'est de pouvoir faciliter aussi le mariage aux personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont la vingtaine, qui sont justement dans
alors
une démarche d'études.
Alors que là, les parents se freinent.
Aujourd'hui, oui.
C'est ça. En fait, les parents, dans ces cas-là, quand ça arrive et que quelqu'un...
Mais pourquoi ils freinent? Parce que justement, ils sont pas rassurés. C'est pour l'enfant qui freine. C'est pas par jalousie ou par égoïsme du parent. C'est parce qu'il pense que l'enfant n'est pas encore prêt ou que le couple ne sera pas en sécurité. Mais après, c'est au couple de rassurer aussi les parents en leur montrant qu'ils peuvent très bien être en sécurité tout en étant des étudiants ou en étant des jeunes travailleurs ou en étant dans une situation qui est peut-être précaire, qui n'est pas forcément terrible. Mais ça ne les a pas empêchés, ces parents, de se marier dans ces situations précaires et de pouvoir construire une famille.
Ali Habibi est l'invité du Book Club, Le Célibat, Liberté et Souffrance, en vente sur Amazon.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Ali Habibi qui est avec nous, thérapeute du couple. Hein. Ali, vous publiez votre premier livre, Le Célibat, Liberté et Souffrance. Il y a plus de gens qui assument leur célibat en disant, ben voilà, c'est mon choix, je suis célibataire et heureux et fier de l'être. Ou est-ce que c'est plus une souffrance que le célibat?
Alors je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'ai pas vraiment de chiffres et il serait, je pense...
C'est-à-dire que vous, ceux que vous voyez, oui. c'est plutôt des gens en souffrance.
C'est ça, ceux que je vois c'est plus des gens en souffrance, ou en souffrance déclarée ou souffrance transférée. Mais elle est soit déclarée, soit transférée, la souffrance. Mais les personnes qui vont assumer, être libres de leur choix et assumer leur choix et très bien le vivre, je vais en voir... qui peuvent venir me voir pour d'autres raisons, mais pas liées à cette problématique-là. Mais je vais forcément moins les voir. Donc, est-ce qu'ils sont plus nombreux ou non? C'est impossible de vous dire.
Est-ce que c'est plus facile dans la communauté musulmane aujourd'hui d'assumer le fait d'être célibataire, d'assumer le fait de ne pas vouloir se marier, d'assumer le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants surtout?
Alors, est-ce que c'est plus facile,
qu'avant, vous regardez avec des yeux, vous étiez un monstre.
Oui, mais les limites, c'était même presque pas trop possible de pouvoir le faire avant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de le revendiquer? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Est-ce que c'est plus facile que dans d'autres communautés ou dans d'autres cellules familiales? Pas si sûr que ça. Donc c'est peut-être un peu plus facile que le passé, mais ça reste quand même difficile. Vous avez quand même beaucoup de gens qui en souffrent, d'autres qui ne sont pas forcément compris, certains qui peuvent être un peu rejetés par la famille. Quand je dis bien un peu rejetés, c'est dans le sens où ça peut être des parents qui vont les bouder ou qui vont justement remettre ça sur le tapis continuellement. Et ça peut justement séparer les c'est là où il y a un paradoxe quand même qui est dangereux. C'est que le parent, pensant bien faire en rabâchant sur le sujet, ne fait qu'éloigner son enfant en fait de lui. Et ce qui rend justement des enfants qui vont moins visiter les parents, justement pour ne pas être saoulés ou blasés par le sujet. Alors que si on mettait un peu de côté la chose, on pourrait voir déjà avoir une relation un peu plus intéressante et meilleure, et de cette relation meilleure peut-être aider un peu plus la personne par rapport à son besoin, pas par rapport au sien. Parce que souvent le parent se positionne, même si c'est pour l'enfant,
D'abord par rapport à sa propre...
Il se projette par rapport à justement à lui-même.
Ses propres besoins.
Et l'enfant justement ne se sent pas compris ni écouté, ce qui peut poser le plus de problèmes et qui peut justement repousser la personne et éloigner de la personne de ce qu'on attend d'elle.
On a vu dans certaines familles des enfants qui étaient ce qu'on appelait des bâtons de vieillesse. Hein.
Oui,
il y avait toujours un enfant qui se sacrifiait pour les parents, pour s'occuper d'eux en fait. Hein.
Oui. Après, ils vont avoir cette fonction-là qui est certes louable, mais qui peut poser problème, en tout cas pour le bien-être de la... Après, vous avez des enfants qui le choisissent et qui le vivent bien, mais d'autres qui peuvent avoir l'impression de le subir et qui le vivent un peu mal. Après, la difficulté de ce quoi, le besoin de s'occuper des parents n'est pas incompatible avec le fait d'être en couple. Hein. C'est faisable. C'est pas toujours simple, mais c'est faisable.
Il faut que la belle-mère accepte.
Oui, après, il faut que... Ou l'époux, si c'est de l'autre côté, ou l'époux accepte. Mais ça peut être des parents qui vivent avec vous, ça peut être des parents que vous visitez régulièrement. Vous voyez, ça peut être des visites régulières. Mais c'est de ne pas oublier, justement, la position et la place des parents, c'est aussi important.
Plus on a de moyens pour se rencontrer, et plus, paradoxalement, les gens ont du mal à se rencontrer. En tout cas, c'est ce qu'on entend. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux. Alors, on n'a pas du mal à se rencontrer, on se rencontre beaucoup. On se rencontre même plus qu'on vit peut-être une époque où on n'a jamais rencontré autant de personnes. Aujourd'hui, la plupart
Donc, les gens rencontrent des prétendantes ou des prétendants.
Oui, alors
la crise, elle n'est pas à ce niveau-là, en fait.
Ça concerne une petite catégorie de personnes qui n'arrivent pas à rencontrer. Mais cette catégorie de personnes, il faut juste voir qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à rencontrer. Est-ce qu'elles ne rencontrent pas réellement? Mais vous avez une petite catégorie qui ne réussit pas parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire pour pouvoir rencontrer, mais elle est minime. Mais il y a une majorité qui vont prétendre ne pas rencontrer de gens alors qu'elles ont rencontré énormément. Le problème, il n'est pas dans la rencontre. Le problème, le problème, il peut se situer déjà dans la quantité. Justement, c'est parce qu'on rencontre beaucoup de gens qu'on a du mal à choisir. Vous voyez.
Alors à ce moment-là, il y a une forme de clientélisme, hein,
ou c'est de se rendre compte que il y en a aucun ou aucune qui est parfaite, et qu'il y en a toujours un ou une qui a quelque chose que l'autre n'a pas, mais qui a aussi un truc en moins. Et à la fin, on devient indécis et on n'arrive pas à choisir. Donc c'est le problème du choix d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ceux qui rencontrent des gens et qui n'arrivent pas à choisir peuvent être des personnes qui rencontrent justement beaucoup de personnes, peut-être un peu trop, et qui va renvoyer à la difficulté du choix. Par rapport justement à la comparaison qui peut être faite. Et c'est problématique. Mais sinon, non, on rencontre des gens, que ce soit de manière spontanée, on rencontre des gens, que ce soit de manière virtuelle, on peut rencontrer des gens. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de rencontrer des gens. Donc aujourd'hui, que vous êtes sur n'importe quel réseau, vous avez des contacts, des gens qui vous contactent. Vous savez même pas, moi, j'ai des gens qui me contactent, je ne sais pas qui. Bon, après, c'est un peu différent parce que je vais être considéré comme.
Quand on vous contacte, on sait ce qu'on cherche, Ali.
Oui, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que. Je vais m'enlever de l'exemple parce que c'est vrai que c'est pas un bon exemple parce que je vais être visible, mais parce que je suis visible, mais des personnes qui ne sont pas forcément connues vont avoir des contacts qu'ils ne connaissent pas réellement et avec qui ils peuvent échanger et avec qui ils vont échanger. Mais c'est des rencontres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une rencontre physique et dans le réel où on voit et on est
que c'est pas
une rencontre. C'est une rencontre. À partir du moment où il y a un contact, il y a une rencontre. Même si elle est virtuelle, même si elle est lointaine, il y a une rencontre. Comme vous pouvez envoyer ou écrire un courrier à l'époque à une personne, vous lisez le courrier, il y a une interaction qui se passe, puis un échange qui se fait, il y a une relation à partir de là. Pourtant, la personne peut être très loin, vous ne la voyez pas du tout, ou vous la voyez très rarement, mais par ces lettres-là, il peut y avoir une relation qui se crée. De la même manière, il y a des relations qui se créent via le virtuel. Et justement, la multiplication des possibilités rend le choix difficile. Tant au niveau des rencontres de ces personnes-là qu'au niveau du choix de l'outil. Il y a tellement d'outils qu'on ne sait plus quel outil choisir. Donc soit on les utilise tous, mais on les utilise très mal, soit on n'en utilise aucun parce qu'on ne sait pas comment les utiliser, ou on ne sait pas lequel choisir justement, ou lequel pourrait être le plus viable, mais les possibilités sont là et les rencontres sont là.
Alors une réponse qu'on entend souvent, c'est pour les personnes qui ont passé la quarantaine ou qui s'en approchent, écoute, à ton âge, tu ne vas pas faire la difficile ou le difficile.
Oui.
Tu vas prendre ce qu'il y a.
C'est compliqué parce que dire ça, c'est d'un côté un peu dur. Tu vas prendre ce qu'il y a, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je dois prendre le premier venu ou la première?
Il n'est pas si mal tout compte fait.
Voilà, mais maintenant, alors il n'est pas si mal tout compte fait, ça ne donne pas forcément très envie, même si ça a l'air d'être dans un élan positif pour essayer de convaincre l'autre que la personne est une bonne personne. Mais il est vrai que vous avez...
Tu t'y feras, je m'y suis faite.
Oui.
Alors, les anciennes générations le disent beaucoup.
Mais parce que c'est leur réalité à eux. Leur réalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément choisi leur conjoint ou leur conjointe. Leur réalité, c'est qu'on leur a soit imposé, soit proposé un panel très restreint. Voilà, je te présente un tel, il a l'air bien, c'est l'enfant de tel, est-ce que tu veux bien, et ce serait bien que tu te maries, soit il se marie rapidement, soit il se marie pas, mais on va pas proposer à la personne des dizaines de candidats. Donc le fait que ça soit imposé ou très fortement proposé fait qu'ils se mariaient sans forcément se connaître et sans forcément se choisir. Alors ils se choisissaient ou ils acceptaient, vous voyez, c'est comme les élections, hein. Vous avez l'impression de choisir, mais en fait, on vous impose 3 candidats ou 5 candidats, vous choisissez rien du tout, en fait. Vous voyez?
Ou parfois, vous choisissez le moins pire.
Voilà. Et c'est ce qui a pu être la réalité de certains anciens couples. Et beaucoup d'entre eux, comme ils le disent, s'y sont faits, c'est vrai. Mais c'était leur réalité et leur monde. Aujourd'hui, c'est un peu différent, même si la réalité peut être la même. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut s'y faire, mais l'objectif, c'est pas de s'y faire. L'objectif, c'est quand même... Vous voyez, on a quand même cet objectif de pouvoir s'épanouir, que ça se passe bien, que ça... Mais, encore une fois, tout dépend de comment, à quel degré on se situe. Est-ce que j'attends que le mariage m'apporte tout ça? Ou est-ce que j'ai déjà tout ça, plus ou moins, et le mariage va juste rajouter des choses et m'accompagner sur le reste? Et je pense que c'est plus la deuxième façon de voir les choses qui est la meilleure.
Alors, il n'existe pas encore de formule miracle ou de réponse toute faite hein, pour résoudre la question du célibat, Ali. Mais quand on vous demande comment est-ce qu'on choisit bien son conjoint, qu'est-ce que vous répondez ?
Bah, qu'il faut d'abord se connaître. On ne peut pas choisir une bonne personne si on ne sait pas qui on est un maximum et pas un minimum. Parce que souvent, on dit un minimum. Non, pas un minimum. Parce qu'on se connaît tous un minimum. Mais on ne se connaît pas tous un maximum. Et il faut apprendre à se connaître. Alors, apprendre à se connaître, ça ne veut pas dire faire une analyse de 15 ans. Apprendre à se connaître, c'est justement s'interroger sur soi, faire des introspections, s'arrêter quelques temps un peu sur nous-mêmes, poser la question à notre entourage sur qui nous sommes. On peut faire des exercices. Ça peut être, je propose un tableau pour apprendre un peu plus à se connaître et un peu plus connaître les besoins qu'on a. Vous voyez, ça peut être un travail qui se fait sur quelques semaines, en fait. Hein, sur quelques semaines, voire quelques mois, au pire des cas. Ça ne prend pas des années. Et le fait d'apprendre à se connaître va vous permettre d'être en phase avec vous-même, de savoir un peu qui vous êtes, voire beaucoup qui vous êtes, et ce que vous voulez réellement. Parce que quand on ne se connaît pas, déjà, on risque de faire des erreurs, et on risque de croire vouloir certaines choses qu'on ne veut pas réellement. Mais c'est juste parce qu'on s'en est convaincu. Comme on joue des rôles dans la société, comme on joue des rôles dans les relations qu'on peut avoir, ou dans les systèmes, dans les groupes auxquels on appartient. Donc, d'être réellement en phase avec nous-mêmes, de savoir ce qu'on veut, qui on est, et qu'est-ce qui pourrait un peu plus nous correspondre. De là, on part déjà sur une bonne base. Et lorsqu'on va faire des rencontres, déjà, on ne fera pas n'importe quel type de rencontre. À partir de cette base-là, il y a des rencontres qui ne se feront pas parce qu'elles ne sont pas viables, tout simplement. On perdra déjà moins de temps. Et les rencontres qu'on fera iront un peu plus droit au but. C'est-à-dire, on va rencontrer une personne, elle nous attire, elle nous plaît un peu.
À partir de quand on sait qu'on perd du temps ?
On perd du temps à partir du moment où on commence à parler de choses qui sont complètement futiles, qu'on parle pas d'essentiel et que ça dure et ça dure, ça se prolonge sur...
Vous êtes réaliste, donc pragmatique.
Quand ça dure sur plusieurs mois et qu'on voit que, bah, en fait, je sais pas qui est l'autre, je sais pas si ça me correspond. En fait, on a toujours pas parlé des sujets les plus importants. On parle de futilité.
Qui sont les sujets les plus importants? Qui sont...
les sujets les plus importants, c'est déjà qui est la personne, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quel est son programme de vie, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il attend du mariage, qu'est-ce qu'il est prêt à offrir dans le mariage, qu'est-ce qu'il aimerait comme système de vie, comme système familial, quel rapport il a avec l'argent, quel rapport il a avec le pouvoir, vous voyez, ça c'est des questions importantes. Comment son système familial se fonctionne? Qu'est-ce qu'il attend par rapport justement à tout ça? Ça ne signifie pas que ça va se réaliser et que ça sera exactement comme ça, mais c'est les sujets les plus importants.
Alors à noter, Ali, hein, que vous avez créé une formation en ligne qui s'appelle Zawadj School, hein, pour tous les apprentis candidats au mariage.
Pas que, c'est aussi pour les couples. Parce que dans la formation Zawadj School, vous avez un module justement pour les célibataires, et tous les autres modules, c'est pour les célibataires, pour les préparer au mariage, mais aussi pour les couples, pour mieux gérer ou mieux faire face à leur relation.
Ça dure combien de temps ?
C'est libre, c'est-à-dire que vous avez, je ne sais plus, mais il doit y avoir plus de 60 vidéos, je crois, plus de 60 cours, et c'est la vitesse de chaque personne. Vous pouvez les enchaîner, les regarder sur plusieurs semaines, comme vous pouvez prendre plusieurs mois pour pouvoir les regarder, en sachant que je rajoute du contenu, ou je vais rajouter du contenu au fur et à mesure, que dans quelques mois, je vais rajouter encore du contenu dans cette formation. Et voilà, dès que j'ai des idées ou dès qu'il y a des sujets que je n'ai pas suffisamment traités ou pas assez traités, je peux être susceptible de faire des vidéos ou des cours pour les proposer aux adhérents.
Bien, Zawadj School, hein, voilà, pour ceux qui veulent se préparer au mariage. Et je rappelle, Ali, que votre premier livre vient de sortir, ça concerne le célibat, c'est le célibat, liberté et souffrance. Il est en vente sur Amazon. Merci Ali Habibi.
Merci à vous Philippe, merci
c'est
de m'avoir reçu.
Premier book club.
Merci voilà, beaucoup.
C'est plaisir, il y en aura d'autres,
oui,
j'ai l'impression.
Oui, s'il plaît à Dieu.
Vous avez la plume hein, maintenant, qui vous démange.
Certains qui sont en prépa, oui.
Bon dimanche et bon ramadan ce matin.
Merci à vous aussi.
Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli